podcast.com. Essaye ça.
En voulez-vous de la marde de Noël? J'en ai des pleins de tiroirs! Hey, non, mais... celle de René Simon, je la connaissais pas, puis du coup, j'ai déjà oublié. Mais c'est une suggestion. Hier, quelqu'un m'a écrit ça en tant que toune pathétique. Effectivement, elle est assez pathétique. Et pourquoi je suis puni à Noël? Mais c'est rien comparé à ce que nous sert Ginette Reno avec ses enfants désespérés et décédés de Noël. c'est épouvantable. Cette chanson-là, depuis ma tendre enfance, est capable de tuer la magie des fêtes en quelques minutes. Puis après, à la fin de l'émission, je vous dis, j'aurai un défi pour vous autres. Là, on va voir c'est qui est tough. Parce que je n'ai quelque chose de... 12 minutes. On va voir qui tough jusqu'à la fin. Moi, je vais être là. Puis je vais regarder qui tough. Ça va être quelque chose. Hey, c'est le dernier express avant Noël. Ils sont presque nus. Ah, c'est le dernier express avant Noël. La semaine prochaine, on fait une petite relâche parce que j'en ai bien besoin. Et je dois me consacrer à d'autres activités qui me font vivre. Et puis, ouais, c'est ça. Fait qu'on va revenir après ça, évidemment. On va vous tenir au courant de tout ça. Mais la semaine prochaine, on prend ça off. De toute façon, l'actualité, ça va... Ouais, j'allais dire, souvent, ça tombe un peu mort avant Noël, là, de la politique, tout ça. Mais là, avec la grève, on n'est pas sûr si quoi que ce soit va tomber mort. On se demande si hier, François Legault qui disait « Ah, je pense que ça va bien, je pense que les élèves vont peut-être retourner en classe lundi, et Colin. » Puis déjà, on disait qu'on chantait pas la même chanson du côté de la FAE. Ben écoute, on reprend le refrain aujourd'hui, je vais vous dire. Je peux rester sur mute puis passer pour un tof. Ah, c'est... Ouais, c'est vrai que tu peux tricher, mais... Mon défi est soutenu par un système d'honneur. Hein. J'ai confiance en vous. Vous allez vraiment essayer de toffer. Puis si vous toffez pas, je vous en voudrais pas. Hein. ceux qui vont s'en aller, vous allez avoir raison. ce que je disais, c'est que hier, François Legault disait « Ah, parce que ça va bien, tout ça. » Puis la FAE disait pas nécessairement la même chose. Puis aujourd'hui, c'est encore pire. Là. Hier, on disait que bon, ce qui se dit dans les médias puis ce qui se dit à table de négociation, c'est pas la même chose. Puis là, aujourd'hui, on rentre dans le gras un petit peu de François Legault. Ce qui se passe à la table est inacceptable, dit-on du côté de la FAE, de la bouche de sa présidente Mélanie Hubert. On va la voir. Ce qui se passe à table est inacceptable, que l'on tergiverse encore après 3 semaines de grève. On dit les propositions du gouvernement consistent en de nouveaux reculs pour les profs. C'est sûr que, tu sais, si t'es contre-off dans une négociation, sont plus basses que tes offres initiales, ça se peut. Ça se peut que ça suscite un peu de ou que ça démontre un peu de mauvaise volonté. Hein? J'ai déjà animé un rock détente, je suis immunisé contre la marde. Écoute, Jean, moi, j'ai animé... Je ne veux pas te relancer, là. J'avoue qu'à Rock Détente, il y en a passé, là. Mais j'ai animé dans le fin fond de la Beauce, puis c'était un mois de musique de Noël, puis je vais en reparler à la fin du show de ça. J'en porte encore des traumatismes dans la tête. OK, faut pas que j'y pense. Donc, c'est pas mal moins jovial. la situation des profs. D'ailleurs, elle qualifie les affirmations de François Legault qui dit que peut-être un retour en classe lundi, selon la présidente, Mme Hubert, c'est jovialiste, déconnecté et irréaliste. Hein? On commence à sentir une certaine impatience du côté de la FAE. Puis, je pense qu'on a décidé... Regarde, le décorum, les formules de politesse, tu regardes ça, là, je pense qu'on est passé outre ça. Là, on est tanné, fanfouin. Contrairement à ce que dit François Legault, les nouvelles à table sont loin d'être encourageantes. C'est ce qu'on soutient du côté de la FAE, qui représente 66 500 enseignants, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'écoles de fermées en ce moment. Le gouvernement, ce qu'on dit, c'est que le gouvernement souffle le chaud et le froid et nous promet de l'ouverture pour ensuite refermer la porte aussitôt. La stratégie du gouvernement est clairement de diviser le mouvement et d'épuiser les profs. Bon, ça, c'est l'opinion de la FAE, mais c'est vrai que si tu commences à laisser poindre de la bonne volonté dans les médias, puis que en réalité, quand tu arrives à la table, c'est pas la même chose. Ça fait un peu... malhonnête, ça pourrait ressembler à de la manipulation, se servir de essayer d'avoir l'opinion publique de son côté, tout en étirant le conflit, ce qui, effectivement, pourrait avoir pour effet de diviser le mouvement et d'épuiser les profs. Fait que, écoute, ça se tient, mais là, moi, je suis pas aux négociations. Moi, je vous lis ce qu'on raconte du côté des deux parties de ce litige-là. On ne saura jamais vraiment ce qui se dit, mais bon. Il essaie de jouer avec l'opinion publique pour dire que c'est des syndicats, les pas fins. Ben oui, oui, c'est évidemment. Puis c'est de la stratégie traditionnelle d'un gouvernement qui négocie... parce que c'est ça, des négociations comme ça en public, bon, ce ne sont pas en public dans les détails, les négociations, mais on réagit puis on passe on se parle par médias interposés. Évidemment, il y a une lutte pour obtenir la faveur du public là-dedans, là, c'est certain. Mais je crois, ça, c'est j'ai pas de chiffres là-dessus, c'est mon ressenti. Je crois que l'opinion du public, même si les gens sont un peu écœurés et ont de la misère à gérer leur vie avec ces grèves étudiantes-là, ces grèves enseignantes-là qui fait que les étudiants, les élèves ne sont pas à l'école, souvent en bas âge, ben c'est sûr que ça fait des problèmes, mais je pense que le public est quand même plus du côté des profs. Là. Puis c'est sûr que la stratégie de Legault, c'est probablement de... instiguer le sentiment ou l'opinion dans la population du bon ben là ça a assez duré, on vous écoutait les profs, mais là à un moment donné il faut que ça recommence là. Ouais, il faut que ça recommence, mais pas à n'importe quel prix. Puis je comprends que les profs ne veulent pas jouer ce jeu-là, parce que c'est certain que si on étire les choses, l'opinion publique, c'est le gouvernement qui risque d'être gagnant là-dedans. Parce que la grève incommode les parents, fait des casse-têtes épouvantables pour s'occuper des enfants puisqu'ils ne sont pas à l'école. Le travail, les gardiennes, la garderie, la grand-mère, la matante, la voisine. À un moment donné, jongler avec ça, c'est un stress de plus. Ça s'ajoute sur ce qu'on appelle la charge mentale, une expression que j'ai découvert en me joignant à une famille. mais c'est certain que je pense que François Legault a probablement intérêt à étirer ça pour stimuler l'écœurantite aiguë des parents qui doivent dealer avec ça et qu'ils finissent par demander eux-mêmes aux profs de mettre fin à la grève. Puis c'est pas une façon très saine de sortir d'un conflit, puis c'est pas ça non plus qui va améliorer les conditions de travail et attirer plus de gens dans la profession, parce que on se rend compte qu'il manque pas mal de monde dans le réseau scolaire. On s'en rend compte d'ailleurs depuis un certain moment. Mais il ne faudrait pas exacerber ce phénomène-là qui est déjà assez catastrophique. Là. Il manque 138 orthophonistes dans le réseau scolaire. 101 à temps plein, 37 à temps partiel. Il manque 143 psychoéducateurs. 111 à temps plein, 32 à temps partiel. Et des psychologues, il en manque 155. 112 à temps plein, 43 à temps partiel. Et une des raisons pour lesquelles il manque tant de psychologues, c'est parce que c'est des conditions de travail, tout simplement. C'est que le salaire est moins élevé au public qu'au privé, puis la job est plus stressante, est plus dure, plus contraignante. C'est une bonne marge, c'est une bonne différence. J'ai un article là-dessus, tiens, lève-la. Les psychologues sont une denrée rare dans le réseau scolaire, et c'est pas pour rien. Le salaire, tel que je le disais, est pas mal moins élevé dans le réseau public. En fait, c'est 44% moins payant d'être psychologue dans le public que dans le privé. Et puis, la tâche ne cesse d'augmenter. Plus il manque de psychologues, plus les cas sont lourds et plus il faut gérer des priorités, des urgences. On peut pas faire de travail de longue haleine avec des enfants, c'est plus difficile. Il y a une psychologue qui s'appelle Marie-Pierre Derry qui parle. Elle dit, elle a travaillé dans des écoles publiques pendant 5 ans. Puis, elle doit y renoncer. Puis pour elle, c'est un choix déchirant parce qu'elle sait qu'elle fait œuvre utile. Mais pour sécuriser le revenu de sa famille, ben, elle est obligée de sacrer son camp. L'écart de revenu qui est de 44%, comme je le disais, c'est sûr que c'est un enjeu majeur. Puis ça fait partie des négociations du conflit actuel, évidemment. Puis là, du côté du gouvernement, on dit que l'offre différenciée sur la table représente une augmentation salariale de 25% sur 5 ans. Sauf qu'on augmente les heures de travail par semaine. On passe de 35 à 37,5. Mais la Fédération des professionnels en éducation, eux autres aussi, ils font le calcul puis arrivent pas au même chiffre. On dit que cette bonification-là comprend une augmentation offerte à tous les employés de la fonction publique liée à l'inflation, évaluée à 12,7%. Puisque la patronale comprend l'abolition d'une prime existante de 9%, ah bon, et que ça rajoute 2h30 de travail supplémentaire par semaine, ah bon. Mais finalement, l'augmentation de salaire devient une baisse de salaire. Après, faut pas se surprendre qu'ils sacrent leur camp au privé, là. Pendant qu'ils militent pour essayer d'avoir une augmentation de salaire, les conditions qu'on offre, ça ressemble à une espèce de ça ressemble à une crosse, là, t'sais. Hey, on va te donner 25%, là!
On va enlever la prime de 9.
Mais on te donne 25%!
On va enlever la prime de 9. Puis on va rajouter des heures.
Mais on te donne 25%! T'sais, ça ressemble à des petits caractères dans le bas d'un contrat, d'un vendeur de chars usagés.
Il stimulera rien. Pour la première fois depuis 40 ans, les profs sont en GGI, grève générale illimitée. Et la population comprend très bien que ces gens sont des fossoyeurs pour le Québec. Pas sûr de comprendre. La population sera écœurée avec raison. Et on devra canaliser ça vers les décideurs, mais pas les grévistes.
C'est vrai, mais l'opinion publique est malléable, puis quand le monde sont écœurés, puis quand le gouvernement bouge pas, ben ils vont essayer, tu sais, je pense que les deux côtés vont écoper. Sauf que, tu sais, du côté des négociateurs du gouvernement, je pense qu'ils sont plus... ça va être moins contraignant que des profs qui se font crier après pendant qu'ils essaient de faire du piquetage. Mais en tout cas, moi, je les vois faire du piquetage. Je klaxonne, je les encourage quand je passe. Je vous invite à faire la même chose. Puis j'entends d'autres gens klaxonner. C'est pas un sondage scientifique, vous me direz, puis vous avez bien raison. Mais mon feeling, mon ressenti, c'est que pour le moment, la population reste du côté des enseignants. Madame Johnny, qui travaille en santé, qui est techniquement de garde, j'imagine que c'est ta conjointe, en raison d'un manque de personnel sur le plancher, doit faire 1h30 de grève à chacun de ses shifts de soir, qui consiste à rester dans la salle de break, pas payé, à pas faire la grève,
parce que les représentants syndicaux décalissent à 4 heures. OK, je suis pas sûr de te suivre exactement dans ce que tu veux me dire. Et lorsqu'elle revient de son break de 90 minutes, il faut qu'elle rattrape la job qu'elle n'a pas fait pendant ses 90 minutes en plus de la job prévue. Ouais, c'est toute une contrainte. Hein? Non, il ajoute des primes, des infirmières, des changements d'échelon. Il mélange tout pour arriver à son 25%. Ouais, je pense qu'on a t'as bien compris la stratégie. Les profs sont payés annuellement sur une base de 32 heures semaine. Ah, c'est vrai ça? Pas mal ceux qui travaillent pas mal plus que ça. Des profs qui préparent des devoirs, qui corrigent des examens, qui... beaucoup dans leur temps libre. Moi, j'ai connu une prof de très près, là, puis j'ai pas vu beaucoup avoir des temps libres. Puis j'ai pas vu des profs compter leurs heures. Hein? Ils punchent pas in, puis ils punchent pas out. Ils punchent jamais. Ils punchent in, mais ils punchent pas out. Quand ils sortent de l'école, ils ont encore de l'ouvrage. Quand ils prennent congé la fin de semaine, ils ont encore de l'ouvrage. Tu sais, les fameux préjugés, c'est que les profs ne travaillent pas, il y a plein de journées pédagogiques, tu sais, 2 mois de vacances l'hiver, l'été. Colin, renseignez-vous, parce que c'est pas de même que ça marche. Il y en a de l'ouvrage. Puis quand l'été est fini, puis ils sont pas 2 mois assis sur leurs mains à relaxer, là. Quand l'été est fini, bon, on leur annonce en catastrophe 2-3 jours avant, max une semaine avant la rentrée. Quel sera leur groupe, combien ils auront d'enfants à s'occuper, puis tu sais, on les traite pas bien, OK? On les traite pas assez bien. C'est aussi simple que ça, là. J'ai jamais même entendu un argument crédible qui allait dans le sens contraire de ça. Puis ils sont pas assez bien payés. Il faut régler ça. Puis c'est encore... Punch it out, c'est quand on démissionne ou la retraite. Ouais, je pense que c'est ça. Hein? Punch it out une fois. Ou vous punchez out quand vous tombez en burn-out. Parce que je lisais aussi des textes où on parlait de profs. Il y a un pourcentage alarmant d'enseignants qui ont dû prendre des pauses, des congés de maladie, qui soit parce qu'ils tombaient en burn-out, soit pour éviter de tomber en burn-out. Mais c'est extrêmement énergivore et contraignant. On va suivre ça, mais attendez-vous pas à ce que la grève finisse demain. Pense pas. Bon, peut-être revenir un petit peu sur la COP. Cette très utile COP hein, qui, depuis 30 ans, a pris 3-4 résolutions qui ont de l'allure et qui ont été respectées par 3-4 pays, ce qui fait que ça n'a à peu près aucun effet sur la planète, sur le réchauffement climatique. Puis là, ben, comme je vous racontais hier, ben là, on a décidé pour la première fois d'inclure les énergies fossiles, de dire, d'écrire quelque part officiellement qu'il faudrait qu'éventuellement, l'on songe à peut-être envisager, mais pas tout de suite, puis de façon équitable pour que tout le monde fasse encore de l'argent avec le pétrole, mais on pourrait quand même envisager que peut-être un jour, nous pourrions effectuer une transition lente, progressive, sans couper les profits, vers peut-être une énergie un peu plus propre. C'est à peu près ça que ça dit, là, la résolution de la COP de cette année. Et hey, puis là, on capote. C'est la première fois qu'on écrit les énergies fossiles. C'est la première fois qu'on écrit qu'il faudrait sortir du pétrole. Oui, mais ça fait 30 ans que vous faites des COP. Ça fait 30 ans qu'on le sait qu'il faut sortir de là. Votre petit gain de merde, c'est juste un aveu de l'inutilité de cette affaire-là, que ça marche pas, que les pays n'ont pas l'intention de faire une vraie transition puis de se grouiller à le faire. Ça montre que l'argent est plus puissant que quoi que ce soit, que les gens préfèrent faire de l'argent au détriment des générations futures plutôt que d'essayer de régler le problème. Tu sais, on le sait, là, OK? Votre petite pièce de théâtre, là, arrêtez, là. Puis Stephen Guilbeault, là, calme-toi un peu, là. Ah, je suis tout content, c'est historique. On va rien faire, mais on a écrit quelque chose. On a écrit pétrole cette année. Ah oui, puis il pense qu'il va donner quelque chose. Non, mais on l'a écrit! On dirait une majorette. Lui, il est passé de militant écologiste à ministre, puis aujourd'hui, ben, je me demande vraiment s'il a les mêmes convictions qu'il avait. J'ai pas l'impression. Parce qu'on dit, bon, ben, regarde, là, maintenant, tu fais partie du gouvernement, on va t'expliquer comment ça marche pour vrai dans la vraie vie, là. Oublie tes affaires de militants, ton environnement, là. Ici, c'est des colonnes de chiffres qu'on gère. puis des apparences. Fait qu'on donne un show qui s'appelle la COP. Il était déjà allé avant d'être ministre. Là. Il savait c'était quoi la COP. Mais maintenant qu'il est ministre, il faut qu'il fasse semblant qu'il est satisfait, on dirait. T'sais. Puis je te crois pas, Steven, je te crois pas. Ça se peut pas que tu sois satisfait de ça. Il y a rien, il y a pas de mesure, il y a fuck all. Il y a rien de contraignant. Même la Chine dit « Hey, on est content! » Mais ben oui, vous êtes content, vous avez rien à changer. Les pays producteurs de pétrole sont tous satisfaits. Pourquoi? Parce que ça ne changera rien. Ils peuvent continuer à faire de l'argent puis continuer à forer des prix, des puits de pétrole. Puis, tu sais, go, dans le fond. Donald Trump a annoncé que la première affaire qu'il ferait, c'est revenir au pouvoir. Forer, on va faire des puits de pétrole. Il y a des pays, d'autres pays qui ont réagi, puis... Tu sais, la Chine, come on. C'est un pays qui s'en sac de tout ça, c'est bien eux autres. Ceux qui s'en sacent pas, c'est l'alliance des petits États insulaires, les petites îles. Eux autres, ils ressentent en maudit les changements climatiques. Puis eux autres, ben... Ils ont les yeux en face des trous, ils sont plus... Oui, Guilbeault agit comme un cocu content, effectivement. Hey, oui, tu peux coucher avec ma femme, mais je peux-tu me crasser dans le garde-robe? C'est ça. Continue à te crasser dans le garde-robe, Steven. Les petites îles, nous avons fait un pas en avant par rapport au statu quo, mais c'est un changement exponentiel dont nous avions vraiment besoin. C'est-à-dire un vrai changement, c'est-à-dire une vraie volonté. Et l'accord de Paris, là. Pas grand pays qui suit ça, là. Kyoto, là, ça sonne bien, puis c'était encourageant quand ils ont pris la résolution, mais quand on voit que les résolutions ne sont jamais respectées par les pays et que c'est l'argent qui gagne tout le temps, on peut-tu se permettre d'être cynique? Moi, je suis pas gêné. Ça, c'est drôle. Le vrai gain là-dedans, là, c'est d'avoir encore repoussé l'échéance de la transition énergétique. C'est ça le gain. Ceux qui ont gagné, là, c'est les producteurs de pétrole. C'est eux autres les vrais gagnants. Steven. Le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, n'a pas tari d'éloge sur l'accord conclu à la COP28 qui laisse entrevoir pour une première fois, une diminution du recours aux énergies fossiles dans le monde. Hey, ça, c'est une victoire, là. Là, c'est pas mes mots, là. Tu sais, tantôt, je dis, peut-être qu'un jour, songer à... OK, moi, je m'amuse avec les mots, là. Je suis un animateur. Là, le journaliste rapporte l'opinion de Steven Guilbeault, le ministre de l'Environnement, qui n'a pas tari d'éloge. Puis je vais répéter la phrase. L'accord conclu à la COP28 qui laisse entrevoir pour une première fois une diminution du recours aux énergies fossiles dans le monde. 30 ans de COP! 30 ans, là! La 28e fois qu'ils se réunissent. Puis la conclusion, c'est on laisse entrevoir pour une première fois. Ce sont pas mes mots, là. Je les lis. Puis ça, c'est une victoire! Voyons donc! C'est un constat d'échec. Voyons, Colin! Steven! As-tu arrêté de brasser ton spaghetti avec une nouille? T'es-tu revenu avec un petit bâton à plastique? Parce que d'ailleurs, la pétrochimie sera pas touchée, hein, je l'ai dit. Hein? Ça, c'est tout ce qui est fait en plastique. Ça veut dire tout ce qui existe, là. Je veux dire, le bois, c'est plus achetable. Le métal, ça n'existe plus. Aux yeux du militant environnementaliste devenu politicien, on fait bien de souligner ça parce qu'il n'est plus un militant environnementaliste, il n'est qu'un politicien. La déclaration finale de la COP28 représente un résultat monumental. Steven! Qui c'est qui t'a dit de dire ça? La première ministre de l'Alberta? Alberta, USA? C'est le cul à qui t'essayes de licher, là? En tout cas, on n'est pas dupes. Moi, je le suis pas, puis je pense que mes auditeurs le sont pas non plus. Oui, c'est ça. Ah! Excellente réponse. Mon Jack Hernikus. C'est quelqu'un de chez McKinsey. McKinsey qui conseille tous les gouvernements du monde à prix d'or. Ah, mais qui conseille l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et le président de la COP qui est un sultan à la tête d'un empire pétrolier. Ah, lui, il conseille gratis, là. Mais au Canada aussi, on fait beaucoup appel à McKinsey. Dont un des mandats les plus hauts, c'est de défendre l'industrie pétrolière. Tu te sens-tu sale, Steven, quand tu dis des affaires de même? Hein? Quand tu fais des fellations verbales, là, tu te sens pas un peu comme une genre de pute? Ou un genre de traître? Tes amis, là, de Équiterre, là, s'ils t'en restent, pensent quoi de toi maintenant? Ils pensent quoi de ce que tu dis? Pour eux autres, c'est-tu un résultat monumental? T'as-tu un petit arrière-goût de gaz dans la gorge, des fois? T'sais, c'est pas lui qui peut tout régler ça, là, mais je me serais attendu que quelqu'un comme lui n'embarque pas dans la pièce de théâtre. Je pensais qu'il avait des convictions et qu'il avait la force de ses convictions. Il a peut-être les convictions, mais il n'en a pas la force. Il peut pas dire une affaire de même et être sérieux, puis avoir encore la même passion pour défendre l'environnement. Là. C'est bien difficile de te prendre au sérieux, mon petit Steven. Même si t'es ministre, j'ai bien de la misère à te vous voyer, là. Oh, que j'ai de la misère. Oh, que mon respect a descendu. Ce qui est probablement ce qui ce qui conforte le plus ce que j'essaie de vous raconter. Il y a une province canadienne qui est particulièrement satisfaite du texte adopté à la COP 28. C'est l'Alberta! L'Alberta USA qui s'enrichit avec le pétrole le plus sale de la planète, là, le pire pétrole que l'on puisse exploiter, les sables bitumineux. C'est la pire façon d'extraire du pétrole. Il n'y a pas de façon plus polluante et dangereuse que d'extraire du pétrole de sable bitumineux. Je suis très encouragé par le succès de l'Alberta et de la Saskatchewan, qui ont repoussé les voix de ceux qui sont obsédés par l'accélération de la sortie des énergies abordables et durables obtenues avec le pétrole et le gaz naturel. Ça, c'est la... Cette semaine, au meeting, on a eu une petite résolution, puis c'est moi qui l'apporte. On devrait essayer de moins sacrer en ondes, puis d'être un peu plus professionnel, comme quand je faisais de la radio FM. Mais je vais quand même dire que c'est la crise de vache de Daniel Smith, qui est premier ministre de l'Alberta. Non seulement est-elle pro-conspirationniste et désinformation et tout ce que vous voulez, elle est très, très à droite, mais elle a dit ça, là. Nous avons réussi à repousser les voix de ceux qui sont obsédés par l'accélération de la sortie des énergies abordables et durables obtenues avec le pétrole et le gaz naturel. OK, le pétrole puis le gaz naturel, c'est des énergies abordables et durables? Mais elle est contente! On a réussi à farmer à gueule de ceux qui essayaient de nous sortir des énergies fossiles à la COP 28. Elle est toute contente! Puis Stephen Guilbeault, lui aussi, est content! Hey, Stephen! Si Danielle Smith est aussi contente que toi du résultat de la COP, qu'est-ce que ça dit, tu penses? Elle a gagné! Les compagnies pétrolières ont gagné! Puis toi, hostie niaiseux! T'es monumental, ils ont écrit « Nerdy Fossil ». Maudit cave! Maudit cave, Steven!
Je pense pas qu'il soit cave. Je pense qu'il est juste croche. Je pense que c'est rendu une pute. C'est ça que je pense. OK? C'est le dernier express de l'année, m'a gâté. Je pense que t'es rendu une pute, Steven. Je pense que tu connais très, très bien la saveur de la rette cul du sultan qui présidait la COP ainsi qu'une des plus grosses compagnies pétrolières au monde. On fait une petite pause, puis je vais essayer de me calmer, juste pour voir si je suis capable.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
Ça va mieux. Ça va mieux. J'ai écouté le conseil de Mado, puis je me suis calmé. Mais Colin! Non, non. Quoique, j'ai une autre affaire qui est un petit peu frustrant. On se rend compte à l'hôpital pour les enfants de Montréal, Children's Hospital, qu'on a laissé rentrer de la pseudo-science au sein même de l'hôpital. La lithothérapie. Cette pseudo-science qu'affectionnent beaucoup les conspis, qui consiste à se guérir avec des roches magiques. Alors, eux autres, ils pensent que c'est de la science, mais non, non, c'est de la magie, là. Lorsque les journalistes de QMI sont passés, d'ailleurs, je vais féliciter Audrey Ruel-Manceau pour son article. Lorsqu'ils sont passés à l'hôpital en novembre dernier, il y avait un livre qui traînait dans la salle d'attente et qui traîne un peu partout, puis même que ce livre-là, on le donnait à des enfants. Ça s'appelle « Pierre d'espoir ». Et dans ce livre-là, on écrit toutes sortes de niaiseries à propos de roches magiques, en essayant de faire passer ça pour de la connaissance, pour de la science, pour un traitement, pour quelque chose qui marche. Et on vend dans la boutique cadeau slash dépanneur où il y a des petites sandwichs pas mangeables puis du lait passé date dans les hôpitaux, des petits bracelets de roches magiques puis des cristaux magiques avec supposément des vertus thérapeutiques. Alors qu'on sait que ça n'a aucune vertu thérapeutique, on sait que ces roches-là, en plus de pas marcher, là, d'être juste du charlatanisme éhonté, ces pierres-là sont souvent obtenues via l'exploitation d'enfants dans des mines. Oui, on se croirait au ranch de l'espoir. Là, c'est les c'est plus le ranch de l'espoir, c'est les ranch de l'espoir. C'est Linda Blanchette, une travailleuse sociale de l'établissement, qui semble qu'elle était bien bonne, puis je remets pas ça en doute, elle c'est peut-être une excellente travailleuse sociale, mais elle a la fâcheuse habitude d'endoctriner le monde à croire à ces maudites niaiseries auxquelles elle croit, de roches magiques. Puis, elle a eu l'idée de génie d'introduire ça à l'hôpital, au département d'hémato-oncologie, tu sais, où on soigne des enfants qui ont le cancer. Les patients les plus désespérés sont les plus... avec des maladies les plus compliquées ou impossibles à guérir, sont les plus désespérés. Et c'est ces gens-là qui sont la proie des charlatans, des faussaires, de ceux qui promettent des cures miracles puis des cochonneries de même. Comme des roches magiques. On parle-tu des roches Nouvel Âge qu'on trouve au marché aux puces à côté des chandails de loup? Oui! C'est de ça qu'on parle. Oui, ça me fait aussi... Oui, l'épisode des bougons qui vendent des roches magiques, prennent de la garnotte à terre, puis ils inventent n'importe quoi, puis les tatanes n'achètent. Mais au moins, les bougons, eux autres, ils ramassaient des roches qui traînaient à terre au Québec. Ils profitaient pas de l'exploitation d'enfants qui rentrent dans des mines... trop petite, dangereuse, insalubre, où l'air est irrespirable. Pour ces petites roches magiques, là, Linda, pour tes petites roches magiques, il y a des enfants qui vont vivre 5-10 ans, 15 ans de moins.
ou pire, parce qu'ils auront passé leur vie ou leur, tout le moins leur enfance à se faire exploiter, à aller chercher tes petites maudites roches. Donc, de son propre chef, la travailleuse sociale, Linda... Linda! J'ai pas le goût de dire Linda. J'ai le goût de dire Linda. Hein? Blanchette, qui travaille... c'est ça... à l'hôpital, elle a travaillé là pendant 10 ans. Là, elle n'y est plus. Elle a pris sa retraite en 2019. Mais durant ses rencontres d'intervention avec les familles, elle a commencé à donner des petites roches aux enfants qui avaient le cancer. Avec un petit bout de papier comme mode d'emploi. Ah, là, ta pierre, elle te donne de l'énergie, là, mais maintenant, elle n'a plus d'énergie. Faut que tu te donnes d'énergie avec des petites pierres, à tes petites pierres. Fait que tu mets ça sur le bord de ta fenêtre au soleil, puis la petite pierre va se recharger en énergie. Elle a dit que... Puis d'ailleurs, dans son livre, qui a été financé, d'ailleurs, à même l'hôpital, une bourse... elle explique que, tu sais, une petite roche magique que moi je te donne, c'est comme un verre de lait, hein? C'est le verre de lait te donne du calcium. Ben, la roche aussi contient des minéraux. Ben oui, c'est une roche. C'est sûr que ça a des minéraux. Sauf que ça transmet pas de façon magique des minéraux. Elle a dit, ça contient des minéraux qui peuvent combler des carences dans ton corps. Non. Pas parce que tu tiens une roche dans tes mains, que t'as mis en dessous de ton oreiller en dormant, que t'as fait rouler dans ta gueule pendant 45 minutes, je sais pas si tu faisais ça, ou que tu t'en rentres dans le cul, qu'elle va te donner des minéraux utiles à ton corps. Tout ça, ça se passe à l'hôpital. Là. Parce que naturellement, on sait que la pierre va donner un peu de ses minéraux. Donc, pour la recharger, certains enfants la mettaient à la lumière solaire. Et la mettent un petit peu dans l'eau, s'empresse-t-elle d'ajouter, convaincue que les roches transmettent leur énergie et doivent être rechargées. Hey! Ça sent le Caroline Mayou. Oh, ouais, c'est exactement la même cochonnerie. Là. C'est des mêmes croyances ésotériques, stupides, qui sont basées sur aucun fait. Madame Blanchette utilisait, par exemple, l'aventurine. Une petite roche verte. Puis elle soutenait que cette petite roche verte-là enlevait les nausées, parce qu'on sait que tu sais la chimiothérapie, ça magane beaucoup, hein, puis ça donne des nausées. Puis c'est très difficile, après ça, de s'alimenter, puis c'est très intense. Les effets secondaires de la chimiothérapie sont très, très, très incommodants. Mais pas si t'as la petite roche à Linda, parce que la petite roche à Linda, verte, va t'enlever les nausées, ou à tout le moins les alléger. Ah non, elle dira pas les enlever, parce que tu vas en avoir pareil, parce que ça marche pas. Mais si elle dit les alléger, ah ben là, tu peux inventer des affaires. Ben vois-tu, moi, mais j'ai eu ta roche, puis j'ai des nausées quand même. Oui, mais ça serait pire si t'avais pas ma petite roche verte. Évidemment, c'est de l'ésotérisme, c'est des croyances qui ont aucune base scientifique, qui servent juste à faire de l'argent sur le dos des crédules qui s'adonnent à acheter ces cochonneries-là, puis à les recharger. Comment ça que le monde croit à ça? Colin! La travailleuse sociale a aussi écrit un livre. Puis dans ce livre-là, ben c'est ça, c'est des patentes ésotériques de marde, là. C'est d'une couverture à l'autre, c'est juste ça, là. Le livre Pierre, Roche d'espoir, présente les roches avec supposément les vertus qu'on leur prête, des vertus qui sont absentes. Je peux vous lire un extrait du livre parce que il y en a une photographie dans l'article. On voit une photo de la roche. Et plus bas, on voit une photo d'un verre de lait. Je renferme de merveilleux minéraux qui peuvent aider à fournir ce dont ton corps a besoin pour lui permettre de bien fonctionner. Les plantes et les animaux ont aussi besoin de minéraux. C'est ça le truc, hein? C'est, tu prends quelques vérités. C'est vrai que ça, on a besoin de minéraux pour fonctionner, les plantes aussi. Ce qui est pas vrai, c'est que ta petite roche les donne par téléportation magique d'énergie. Ça, c'est de la marde. Bien que ton corps soit composé de minéraux, il n'en produit pas naturellement. Il doit se les procurer par une alimentation variée. Ça, c'est vrai. C'est en mettant des petites affaires vraies qu'on réussit à insérer des petits mensonges payants. tout comme le calcium qui est un minéral qui favorise la bonne croissance des dents et des os. Les pierres contiennent plusieurs minéraux pouvant combler des carences dans ton corps. Non! Tu peux la licher, ta petite roche verte, ça ne changera rien. Mais encore moins si tu fais juste la tenir dans ta main ou si tu la mets en dessous de ton oreiller. Le contact de la pierre, que ce soit au niveau de la chaleur, au niveau de l'électricité ou au niveau de ce contact-là, ça peut aider à combler cette carence-là, explique Mme Blanchette. Mais quand on lui demande « C'est quoi tes sources, tes affirmations? »« Ah, ça c'est... Je sors ça de mon cul! » Elle dit, bon, c'est pas ses mots. Ses mots, c'est « Non, il n'y a aucune preuve de ça, vous avez tout à fait raison. » Bon, ben, ta gueule! Linda a pu écrire son livre grâce à une bourse. Son livre, son torchon, sa feuille de chou, grâce à une bourse reçue à titre de lauréate du prix Provigo pour l'excellence du personnel professionnel en 2018. Cette distinction annuelle est remise par la Fondation du Children et les lauréats sont approuvés par le centre hospitalier. Demandez-moi pas d'où elle vient, ce voix-là. Mais il y a un article, effectivement, sur le site de l'hôpital qui dit « Linda Blanchette, lauréate du prix Provigo pour l'excellence du personnel professionnel ». Linda fait partie de l'équipe de l'hôpital de Montréal pour enfants depuis 1986 et elle occupe le poste de travailleuse sociale du service d'hémato-oncologie pédiatrique depuis 10 ans. Puis il paraît qu'elle est bonne. Puis ça, j'ai pas de misère à le croire. Elle est sûrement très bonne comme travailleuse sociale. Sauf quand on parle de ces maudites petites roches magiques. Selon ses collègues, « Faiseuse de miracles » serait un titre qui lui conviendrait encore mieux. Premier red flag, hein? Les miracles dans les hôpitaux. Linda se distingue particulièrement en réglant la myriade de problèmes sociaux qui surgissent lorsqu'un enfant reçoit un diagnostic de maladie dévastatrice. Bravo, Linda! Cette partie-là, j'ai pas de problème avec. Toujours sur le site de l'hôpital, Linda rencontre chaque nouveau patient qui reçoit un diagnostic de cancer et sa famille. Elle les accompagne à chaque étape du traitement. La réussite de Linda repose sur la création et le maintien des liens de confiance avec les patients et les familles. De sa propre initiative, Linda a élaboré un programme pour aider les enfants qui ont des nausées à la suite de traitements de chimiothérapie en utilisant des pierres précieuses au point de pression. Ah, Colin! L'hôpital ne peut pas dire « Ben là, on ne savait pas l'affaire des roches. » Non, non, vous l'avez écrit! Elle a également créé un partenariat avec les services éducatifs en milieu pédiatrique, mieux connu sous le nom de Child Life, afin de mettre sur pied un groupe de soutien pour les frères et sœurs atteints de cancer. C'est tout bien, mais il y a un petit red flag, là! Elle soulage les enfants de la nausée grâce à des petites roches magiques. Donc, le prix qu'elle a reçu, le prix Provigo, c'est accompagné d'une bourse personnelle de 1 000$ et d'un financement de 9 000$ pour un projet hospitalier, avec lequel elle a écrit son livre de marde. Et ça a été approuvé à l'hôpital. Dans son livre, je ne sais pas si c'est à la fin ou dans la préface, elle écrit... des remerciements, bon, aux enfants, aux adolescents, blablabla, à la Fondation de l'Hôpital de Montréal, ainsi qu'à Provigo pour leur soutien financier. Elle remercie aussi Mme Claire, consultante à la collection Lux Eterna, pour sa grande expertise du royaume des pierres et des cristaux et pour sa guidance. Ce paragraphe-là, ça vous a pas allumé quelque chose à l'hôpital? Vous voyez pas que c'est un petit peu ésotérique, weird, non scientifique? Allô? D'autres extraits du livre « Les roches de l'espoir ». Bien que tu ne l'entendes pas, là c'est la roche qui parle, OK? Bien que tu ne l'entendes pas, j'émets un son, une vibration qui se connecte avec toutes les cellules de ton corps. Et ensemble, nous ne sommes qu'un. Très scientifique. Très scientifique. La roche fait une vibration, probablement à 432 Hz, hein? C'est pas mal la fréquence favorite des conspis et des ésotériques. Et cette roche-là communique avec chaque cellule du corps pour ne former qu'un avec elle. Ça, je le sais, après ça, dans Star Wars. La force, hein, la force relie toutes choses, tous les corps et tout ce qui existe. Nous ne formons qu'un avec la force et avec les petites roches magiques de Linda. Améthyste, je donne le courage d'affronter plus facilement les périodes difficiles, soit à la maison, à l'école ou à l'hôpital. Je diminue les cauchemars et je peux t'apporter un sommeil réparateur si tu me déposes sous ton oreiller. Hein, le plus jeune ici, des fois, il a de la misère à dormir, il fait des cauchemars. Moi, je vais y mettre de la garnotte dans son lit. Ça va l'aider beaucoup. Pour me nettoyer, j'aime prendre un bain dans un bol d'eau claire pendant 10 minutes.
Pourquoi 10 minutes?
Afin de recharger mes énergies, tu peux me déposer sur un amas de quartz ou m'exposer à la lumière du soleil.
Encore là, ce sont les propos de la roche, tels que rapportés par Linda dans son livre
« Les roches de l'espoir ».
Certains affirment qu'elle leur offre réconfort et courage lors de traitements et d'interventions chirurgicales.
Chaque roche contient des minéraux qui lui sont propres et sa composition chimique peut favoriser un état de calme et une sensation de bien-être.
Ça s'appelle l'effet placebo, Linda. Là, c'était roche, ça pourrait être n'importe quoi. Quand t'es convaincu que quelque chose marche, ben, tu te sens un peu mieux. Ce que je trouve pas correct, c'est de faire des promesses de guérison puis d'alléger la nausée et de mieux dormir. Avec des roches qui marchent pas, Linda, ça marche pas tes crises de roches. C'est des roches!
Ni l'hôpital, ni sa fondation n'ont voulu commenter le fait que le livre de « Les roches magiques de l'espoir de Linda »
trône sur le dessus de la pile des livres mis à la disposition des visiteurs de la salle d'attente de la fondation à l'entrée de l'hôpital.
Et quant aux bracelets de cristaux de guérison, puis les chandelles ésotériques, dont une est écrite « Attention, présence maligne détectée, allumez cette chandelle-là ». Sur la chandelle, c'est marqué « Emergency Ambience « Evil Presence Detected ».
Donc, si vous détectez une présence maligne dans la maison, empressez-vous de toute urgence d'allumer cette chandelle-là qui puise.
Donc, quant au bracelet de roche magique de guérison de l'espoir qui marche pas à Linda et les chandelles ésotériques qui puisent, que peuvent se procurer les patients et leurs visiteurs à la boutique cadeau de l'hôpital, on a rejeté la responsabilité sur le franchisé qui exploite la boutique.
Ah ben là, pas de notre maudite faute ce qu'ils vendent, là, puis c'est un magasin, puis ils vendent ça.
Ouais, mais tu sais,
vends-tu des cigarettes aussi, rendu là? Hein? Vends-tu de la bière, puis des smokes?
Comment ça se fait qu'au Québec, on laisse les gens se faire exploiter comme ça? Il y a des articles de loi sur le charlatanisme, puis pour moi, je ne les ai pas compris, là. Parce que le charlatanisme est vraisemblablement légal au Québec et au Canada. Sinon, il n'y a pas des maudites folles qui vendraient des cartes du ciel, qui liraient l'avenir au tarot, dans la petite tente au marché aux puces, où les épais s'en vont se faire exploiter. Il n'y aurait pas d'homéopathie dans les pharmacies. Puis il n'y aurait pas de roche magique de l'espoir à Linda dans les hôpitaux. Fait qu'on a le droit d'être un charlatan au Québec. Faut juste comme être habile, puis il faut utiliser des... Faut pas inventer des nouvelles façons de faire du charlatanisme. Arrivez pas avec quelque chose que vous avez inventé. Prenez, de toute façon, vous avez l'embarras du choix, là, des conneries en masse qui existent. Si vous prenez quelque chose d'un peu établi, là, puis qui a fait ses preuves comme quoi ça fourre le monde bien comme faut depuis des décennies, voire des siècles, ben vous pouvez. Vous pouvez vous donner des titres ronflants de thérapeute de ci, de ça, là. Vendre des roches magiques, lire les lignes de la main.
rincer le trou de cul des imbéciles qui s'en vont faire de l'hydrothérapie. Vous pouvez faire bien des affaires. Vous pouvez faire semblant de guérir les gens. Vous pouvez faire semblant de soigner les gens tout en prenant leur argent et en posant des gestes qui n'ont aucune incidence sur leur santé. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous venez d'un autre pays et que vous êtes un vrai médecin, vous ne pourrez pas pratiquer, hein? Le Collège des médecins est bien à cheval là-dessus. Non. Attends un peu, là. On va pas laisser rentrer des vrais médecins puis les laisser pratiquer ici, là. Mais ils n'ont pas l'air d'avoir de problème avec les charlatans qui vendent des roches magiques, qui rincent le cul du monde avec des hoses, puis qui vendent des petites pilules d'eau. Qui font des séances d'hypnose de régression, puis OK, là, on va reculer au moment de ta naissance. Qu'est-ce que tu vois? Je vois qu'il fait noir, puis je suis pris, puis là, je sors, puis là, les médecins ont l'air inquiets. Ils me regardent. Il y a quelque chose de pas normal. Je pense que je respire pas comme il faut. Ils me mettent dans un incubateur. Oh mon Dieu, je savais pas que j'avais vécu ce traumatisme-là. Les thérapies de régression, là, par hypnose, là, ça sert juste à insérer des faux souvenirs dans la tête de patients crédules qui, après ça, vont payer pour d'autres séances d'hypnose pour se soigner de ces affaires-là qu'ils n'ont jamais vécues. Puis il y en a qui vont encore plus loin. Ils reculent avant ta naissance. Oh, j'étais la femme de Napoléon et il n'était pas gentil avec moi. C'est drôle, hein? Tout le monde qui régresse dans la vie antérieure a tout le temps des vies extraordinaires. Soit qu'ils étaient des proches ou eux-mêmes des personnages historiques. Pas beaucoup de plombiers, hein, dans les vies antérieures. Pas beaucoup de fermiers, pas beaucoup d'esclaves. Et on laisse ces madames-là pis ces messieurs-là fourrer le monde. Leur faire croire qu'on va leur faire du bien. Leur faire croire qu'on les soigne. Qu'on les aide à grandir par en dedans, alors qu'on les écrase en dessous de nos mensonges. C'est honteux. Mais les vrais médecins qui ont consacré la moitié de leur vie à étudier, s'ils viennent d'un autre pays, eux autres, ils n'ont pas le droit de rien faire. Je pense que je vais contacter le fameux neurologue français qui a de la misère à travailler ici dans les hôpitaux. Hey! Vends des roches magiques! Ça, t'as le droit! Fais de l'homéopathie! Ça, t'as le droit! Oui, mais ça, j'ai pas de formation là-dedans, puis c'est une pseudo-science. Pas grave! Tu viens de le dire, c'est une pseudo-science. T'as pas besoin de savoir de quoi tu parles quand tu vends des mensonges, quand tu vends de la marde. La bonne nouvelle du jour, parce que oui, il y en a une, c'est que le gros porc visqueux, puant, malodorant de Gérard Depardieu a finalement été radié de l'Ordre national du Québec, qui est la plus haute récompense que le gouvernement peut décerner au Québec. Ben, on l'y a enlevé. Probablement qu'il s'en sacre. Mais c'est pas pour lui qu'on fait ça, c'est pour nous autres. Et pour ceux qui l'ont mérité, cette récompense-là. Parce que ça ternit l'Ordre national du Québec d'avoir parmi ses membres un de leurs chevaliers. Hein, c'est Bernard Landry qui l'avait fait chevalier. D'avoir un de leurs congénères qui est aussi dégoûtant. J'ai pas besoin de rappeler ce qu'il a dit puis ce qu'il a fait. Je pense que c'est de notoriété publique. On en a parlé, je pense, dans l'after show. C'est un gros porc dégueulasse qui méprise les femmes, qui les réduit à leur fonction sexuelle et qui se gêne pas pour le faire pour des enfants d'ailleurs de 10 ans et qui est accusé de viol et de violence sexuelle par un paquet de victimes dont une s'est suicidée récemment. Fait que je pense que je rentrerai pas plus dans les détails que ça. On est juste bien content qu'on lui ait enlevé cette décoration-là. Même si je soupçonne qu'il s'en sac, j'espère que ça lui fait mal un peu. Mais nous autres, ça nous fait du bien. C'est pas vrai qu'on va, en tant que nation, tolérer qu'on on récompense avec notre plus haute distinction un sale porc vicieux obsédé sexuel qui sait pas vivre et qui se fait l'ami des pires dictateurs de la planète. Au nom des Québécois et des Québécoises, mon Gérard, je te souhaite de crever tout seul, tiens. C'est mon vœu de Noël! Ben oui, c'est un bon acteur, sinon on n'en parlerait pas. Je sais, Siméon. Il est très bon acteur, c'est pour ça qu'il est connu. Sinon, ben tu sais, des trous de cul comme lui, il y en a plein, là. Plein. Frank Pocket, un être d'amour et de lumière, certainement. Je te souhaite de crever, Gérard, avec la lumière aveuglante de celle de la salle de réanimation alors qu'on aura failli à guérir ton cancer du cul qui t'aura fait souffrir pendant des mois et des mois avant de trépasser en vidant tes intestins dans la honte la plus abjecte de Noël.
OK, alors, là, ça, on va arrêter ça, là, puis on va s'amuser avec quelque chose de quand même... Ah, oh, non, c'est quoi?
Est-ce que je vous passe ça après le show épouvantable que je viens de vous faire? Ben oui, il faut que je respecte ma parole. Je vous ai promis un défi, et en voici un. Vous allez endurer, pour mon plaisir le plus sadique, quoique je vais l'endurer avec vous autres, témoigner. De toute façon, je continue le stream jusqu'à ce que ce soit fini. Mais je vais quand même vous raconter, je vais quand même faire une petite mise en contexte. Lorsque j'ai commencé ma carrière en radio, je travaillais au FM 101.3, qui est devenu FM 101.5 à Sainte-Marie-de-Beauce, dans Chaudière-Appalaches. Et on m'a fait comprendre que la musique de Noël, ça commençait le 1er décembre, puis ça finissait genre le 6 janvier. Musique de Noël, jour de l'an, compagnie. D'ailleurs, c'est moi qui faisais les shows de Noël et du jour de l'an. Parce que j'étais le dernier rentré. Et j'étais pas animateur en tant que tel. J'étais producteur-animateur. Mais j'étais surtout producteur. Je faisais des publicités, des images sonores, des choses comme ça. Mais j'animais aussi les shows que personne ne voulait faire, dont celui qui celui du jour de l'an, qui est toute la nuit ou presque. Celui de Noël qui est toute la nuit ou presque. Puis étonnamment, c'est pas mal écouté. Il y a des gens qui sont seuls, qui ont besoin d'une présence, puis ça leur fait du bien, puis moi, j'étais content de faire ça. Ça me réconciliait un petit peu avec les fêtes. Pas parce que j'avais un traumatisme quelconque, c'est juste parce que je trippais juste pas là-dessus. Puis là, j'ai trouvé que ça c'était intéressant. Surtout quand les auditeurs venaient me voir, parce qu'il n'y a pas juste des gens isolés traînent dans les rues. Non, c'est beau, Ginette. Mais il n'y a pas juste des gens isolés qui écoutent ces shows-là. Surtout le show du jour de l'an, c'est de la musique festive, des rigodons, tout ça. Puis moi, je suis de bonne humeur en onde. Fait qu'il y a bien du monde qui font jouer ça dans leur party du jour de l'an, parce que c'est de la musique de circonstance. Et l'animateur ferme sa gueule la plupart du temps. C'est-à-dire que je parlais pas beaucoup, je parlais des petites affaires. Puis quand je parlais, c'était pour transmettre des salutations que les familles se faisaient de l'une à l'autre. Fait que, ouais, on a la famille Thibault qui est dans le coin de Saint-Elzéar, qui sont gros party à soir. On les salue, tout ça. Fait que là, je m'amusais à faire ça. Fait que les familles m'écrivaient, puis disaient, hey, parle de ma famille, là. Parle de mon oncle Gérard, il est bien soupe, il est rendu en bédaine. OK, hey, là, dans la famille Côté, dans le coin de Tring, Jonction, Gérard, c'est peut-être temps que tu remettes ton chandail. Ça m'est... Fait que c'était super drôle à faire, c'était super le fun. Puis il y a des gens qui partaient de leur partie de famille, puis qui venaient me porter des boissons, puis des affaires à la station, tu sais. Des bouteilles de vin, bouteilles de phare, du sucre à la crème, toutes sortes d'affaires. C'était vraiment cool. Mais, durant ce mois de musique de... Oui, Tring Jonction, ça existe. Durant ce mois-là, où on ne passait que de la musique de Noël, et j'étais obligé de l'écouter parce que moi, j'étais beaucoup sur la route avec le mobile de la station, je faisais tirer des gâteaux aux fruits puis des jeux de société. Fait qu'on me mettait en onde trois fois l'heure et je disais où je me trouvais. « Hey, je suis présentement dans le parking de l'église de Vallée-Jonction. Le premier qui vient me voir au mobile gagne un jeu, puis les trois qui vont suivre, je vous donne un gâteau. Ah, puis tiens, les quatre, je vous donne des beaux gâteaux aux fruits vachons. » Puis ça marchait tellement d'ailleurs. Vous seriez surpris de voir ce que les gens sont prêts à faire pour un gâteau aux fruits. En fait, pour n'importe quoi de gratis. Hey, ça se coupait dans le parking. Moi, ma responsabilité, c'était de me stationner avec le mobile de la station. Tu sais, électrique, les gyrophares, toute la patente. À un endroit sécuritaire et assez grand pour que les gens puissent se bousculer en toute sécurité. Parce que les gens, ça arrivait, puis là, ils se coupaient. « Ben, je suis là en premier, là, les pick-up, tout ça. » Puis parce qu'ils voulaient être le premier arrivé au mobile. Un mobile, c'est ça, c'est le véhicule de la station. Pour avoir le jeu de société ou un gâteau aux fruits. Puis pour vrai, là, tu sais, je vous dis pas, ça se tapait pas sa gueule, là, mais crime, ça prenait des risques, puis ça c'était cow-boy pas mal en char. T'es voyais rentrer, « Oh, je l'ai vu! » Puis rentrer dans le parking à toute vitesse. C'était spécial en maudit de voir ça. Hein, les gratuités, ça fonctionne, hein? Ça fonctionne. Et j'endurais la musique de Noël, oui, gâteau aux fruits, fameux gâteau aux fruits de Noël, tu sais, brun, noir, avec des fruits pourris dedans. Je fais partie des trois personnes qui aiment ce gâteau-là. Je suis obligé de faire mon coming out. J'aime le gâteau aux fruits. je sais qu'on est... Il y a juste moi puis des personnes de 83 ans et plus qui aiment ça. Mais qu'est-ce que tu veux? J'aime ça, moi, des bons vieux desserts de bonhomme. C'est ça. Pendant ce temps-là, moi, il faut que j'écoute en onde pour savoir quand est-ce que je rentre en onde. Fait que j'écoute la radio non-stop. Ma radio, celle pour laquelle je travaille, qui comble sa promesse de passer juste de la musique de Noël. Et à travers ça, puis je vous jure que c'est vrai, si on ne passait pas l'horreur que je vais vous diffuser dans les prochaines secondes, on recevait des plaintes. Quand est-ce que vous la passez, là? La drogue de Père Gédéon! Il y avait ça, puis... comment ça s'appelait... Petite fille qui fait pitié, là. Une autre affaire pathétique, là. C'est quel genre de monologue, là. Ça va sûrement me revenir. Mais ça aussi, c'était pathétique. Et le monde aimait ça. Le monde aimait donc ça. Non, arrête. Noël au camp, là, c'est joyeux, c'est hop la vie comparé à ce que je vous amène là. Il y a Willy Lamotte là-dedans. Tex le corps, Noël au camp. Mais là-dedans, c'est Willy Lamotte qui fait le donut un peu, là. C'est-à-dire qu'il fait le petit bout avant le monologue de Père Gédéon, puis le petit bout après le monologue de Père Gédéon. Et si on est habitué à entendre le mot monologue à côté de Yvon Deschamps, qui faisait des monologues humoristiques, celui-là n'est pas humoristique. Non, c'est pas Noël au camp. Je vous passe pas Noël au camp. Je vous passe mille fois pire. Arrêtez! Ça s'appelle « La drogue du Père Gédéon ». Très populaire en Beauce. Et si on le passait pas, je vous le dis, on avait des plaintes. Le monde appelait, puis c'était des demandes spéciales. Il appelait à la station. « Hey là, faut vous passer ça, là, la drogue. Moi, je trouve ça bien beau, puis bien beau. » Noël sans toi. Non, ça, c'était Alain Morisot et Sweet People. Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle « La drogue » de Père Gédéon. Et nous allons tous l'endurer ensemble. En tout cas, moi et les plus tough d'entre vous. Et puis... Oui, en Beauce, ça s'explique. On s'explique bien des affaires. Ouais. Puis je ne veux pas faire des des préjugés, mais il y a quelques préjugés qui ont un fond de vérité. Puis ouais, le Père Gédéon, ça pognait pas mal. Donc, on écoute ça, on se quitte pour le temps des fêtes sur cette affaire tout à fait déprimante, mais je vous dis, ça vaut la peine d'être entendu au moins une fois. Et si vous êtes capable de la toffer, vous allez hériter de mon respect le plus absolu. Et je vais... Oui, la Charlotte! Ah, merci, Lulu! La Charlotte, une autre affaire qui fait pitié épouvantable. Vous irez googler ça si vous n'êtes pas trop déprimé après la drogue du Père Gédéon. Mais voici, je vous dis joyeuse fête des cadeaux et bonne année. On se revoit après dans l'Express, mais je vais apparaître sur tout ce qui est TV. Inquiétez-vous pas d'ici Noël, vous vous débarrasserez pas de moi comme ça. Mais je vous laisse avec ce douloureux souvenir
de je sais pas quelle année. Mais bon, on se le tape. Salut tout le monde, voici la drogue du père Gédéon.
Il y en a qui passent des Noëls tristes, il y en a d'autres, des Noëls gays. Ici, nous avons notre beau sapin.
Bonsoir, Willy.
Tiens, si c'est pas le père Gédéon. Comment ça va?
Oh,
vous avez bien l'air son genre ce soir?
Ah, je me sens un homme pesant à soir. Depuis 3 ans, tous les jours de Noël, c'est pareil. C'est curieux, Willy. Je sais pas si c'est parce que je vieillis pis que j'ai trop de souvenirs. Mais à Noël...
Non, Noël, au cas, c'est pas triste, triste comparé à ça. Je m'excuse sincèrement de faire subir ça. Bon, on va passer au travail.
Ma famille est tout éparpillée à Ubiaya. Ma vieille demeure qui est partie pour toujours. À mes enfants, à mon jeune temps. Quand tout était tout ensemble à la maison, là, quand j'étais plus jeune, la veille de Noël, c'était la joie. La joie qui éclatait partout autour de moi. Le matin, là, Timé et Jean-Gilbert allaient dans la sucrerie à bout de temps, c'était un autre meilleur couper un beau sapin, là. Puis dans la veillée, les petites filles, elles décoraient en s'amusant. Puis là, à 11h du soir, ou être la grise puis la cordiole, on mettait nos capots de poêle puis nos cremones, puis on s'en allait à messe de minuit, au son des gurlots sur la belle neige blanche de la Beauce. Là, j'avais tous mes enfants autour de moi comme une couronne. Et puis j'étais heureux. Est-ce que j'étais heureux, Willy? Je pourrais jamais te dire comment. Noël, vois-tu, c'est la fête des enfants, qu'ils soient petits ou bien grands. Même le bon Dieu, ce jour-là, c'est un enfant. Puis quand je le regarde,
bon Dieu,
couché dans sa petite crèche, tout petit bébé, c'est plus fort que moi. Je pense à mon petit gars, Dominique.
Ok, je vais vous prouver, je reste là.
Puis que je revoirai peut-être jamais. Elle m'en va dire mon sacré, Willy. Parce que je t'aime comme si t'étais mon plus vieux. Puis parce qu'il est trop pesant pour moi tout seul à soi. J'avais un petit gars. Dépareillé. C'était mon dernier. Il était beau, puis intelligent, donc, puis affectueux, puis fin. C'était le diamant de la famille, Willy, comprends-tu? Tout le monde l'aimait, oh, puis j'en étais fier. Je le voyais grandir, là, joyeux, sain, vigoureux. Puis je me disais à moi-même, me semble que Ahmed va toujours rester jeune. Tant que Ahmed va l'avoir avec moi.
On est encore 76, puis, courageux.
Il a envoyé au collège, je comprends, pas besoin de te le dire. Il avait du talent, le petit pauvre. Puis il étudiait, ben, puis il était toujours premier. Je l'ai encouragé, moi. Appelé, en pensant tout bas, tout ce que j'ai pas pu avoir à son âge, moi, parce que Poupa était trop pauvre. Je m'en vais lui donner pour qu'il soit encore plus heureux que moi. Ah, c'est bien simple, Willy. J'avais le cœur qui nageait dans l'espérance. Puis tout d'un coup, quand tu as eu 18 ans, c'est mis à changer. Dans l'espace de quelques mois, je ne reconnaissais plus. Lui qui était si vaillant, si affectueux, si prévenant, pour sa mère surtout, il a commencé à être dur. Il étudiait quasiment plus, et il sortait tous les soirs avec des curieux de gars qui avaient l'air soudants, qui se sacraient à part de ça, puis qu'il n'a jamais voulu nous présenter. Puis quand on voulait lui parler doucement, Il resta fermé.
Les gars de la drogue, ça.
Il répondait pas. C'est comme s'il a vu c'était révolté. Contre tout. Pour de ça, il était blême, mais les yeux toujours cernés, il se levait plus le matin. Dans sa chambre, il y avait toujours des... comme des
odeurs. Non, non, il chante pas, il chante pas. On passait ça à la radio.
Ouais. Ben, il était bien malade.
Je vous passe ça, vous autres. Puis je l'écoute.
Puis un soir, j'étais de cheveux avec lui, puis ça vient de mer qu'il le met un...
À la fin, ça chante.
Doucement. Puis...
Ça vaut la peine, la fin, parce que ça chante, mais c'est pas...
Sans vouloir,
vous allez voir.
C'est vraiment... les jeunes. Il m'a répondu, « Lâchez-moi tranquille, tous les deux. Vous comprendrez jamais rien. Je suis pas de votre monde. » Ces mots-là, où elle est, ça m'a déchiré l'âme. C'est comme s'il m'avait rentré un poignard dans le cœur.
On l'a moitié de fait.
Pourtant, il me semble que... Oh, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je n'ai jamais compris pourquoi. Puis un beau dimanche après-midi, il y a déjà 3 ans, ça. Il y a un gars de la ville qui était au collège avec lui, puis qui est venu le chercher. Il est parti avec lui.
Un gars de la ville.
Sans même me dire bonjour. Puis je ne l'ai jamais revu. Je ne l'ai jamais revu. Depuis ce temps-là que je le cherche. Je l'ai-tu cherché, oui, je l'ai-tu cherché. Partout.
Il est parti avec un gars de la drogue.
Je suis par après que le gars qui était venu le chercher, c'était un gars de la drogue.
Voilà, il travaillait pour la drogue.
Où ça ce qui est? Où ça ce qui peut
bien? Où ça ce qui est?
S'il m'écrivait.
D'où au QG de la drogue?
Pour que je dise quelque chose. Puis que je tiède un peu, il est peut-être bien dans la misère, c'est enfant, puis il a peut-être bien honte de revenir. Pauvre petit gars, s'il savait que sans le vouloir, il a tué sa mère. Pauvre vieille demeurée. Elle est morte, puis il y a rien que moi qui sais de quoi. Elle est morte de chagrin. Le jour même où Dominique a eu 20 ans.
Ah, et Chad qui dit, il se rend pas compte comment c'est le fun, la drogue.
S'il savait pourtant comment
ça s'est déplacé.
Il me semble qu'il va revenir. Où ça ce qui est? Où ça ce qui est? Et curieux, hein, Wally? C'est lui qui m'a fait le plus de peine dans ma vie.
Ça achève le crochet. Je suis fier de vous autres, vous êtes encore là.
Quand je regarde la fin de Jules...
Ça me rappelle la joie de vivre de ma mère.
C'est lui que je vois. Ça se peut pas.
On va arriver sur la chanson, ça devient beaucoup plus joyeux et beaucoup moins pathétique, vous allez voir.
Ça se peut pas, Willy. Ça se peut pas. C'est de bien qu'à
soir. On va donner un coup de main, on va skipper une minute.
Vu que c'est Noël, joue moins de la guitare, veux-tu, Willy?
Ça va faire du bien.
En attendant la messe de minuit.
Je vais essayer, Père Gédéon. Nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'estre confiant.
C'est pas du tout pathétique chanter Sainte Nuit pendant que quelqu'un fait semblant de pleurer dessus.
Adorer leur Dieu.